Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, très content de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui, une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous en ce lundi 2 juin 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Le fil conducteur ce matin au Nigeria, explosion meurtrière dans un local où des fans suivaient un match de football. Retour au calme après Caire dans la capitale centrafricaine après la récente flambée de violence.
La volonté de désarmer est certaine parce que c'est un point d'achoppement sur la sécurité. Maintenant, on ne désarmera pas dans le désordre.
À l'international, Washington justifie la libération de 5 prisonniers de Guantanamo contre celle d'un soldat américain par les talibans en Afghanistan. Et dans la partie magazine, les réactions à Goma, au Congo-Kinshasa, après le début de démobilisation des rebelles hutu-rwandais des FDLR.
On ne peut cantonner que des personnes qui sont considérées comme des réfugiés. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui s'est dit FDLR, qu'un gouvernement puisse les cantonner, les nourrir, les mettre quelque part pour qu'ils soient servis.
Également, au programme, les sports et la musique du jour. Anne, nous ouvrons donc sur le dernier attentat en date au Nigeria.
Oui, l'explosion d'une bombe hier soir dans un local servant à la retransmission télévisée de matchs de football a fait au moins 14 morts et 12 blessés. L'attentat, qui n'a pas encore été revendiqué, a eu lieu dans la ville de Moubi, dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays, une région fréquemment visée par Boko Haram. Le groupe islamiste, qui détient toujours plus de 200 lycéennes, est également accusé d'avoir attaqué 4 villages samedi. Un bilan fait état de 15 morts. Les villages en question se trouvent dans la région de Gamboru, dans l'état de Borno, près de la frontière avec le Cameroun.
Au Cameroun, justement, 2 prêtres italiens et une religieuse canadienne, enlevés au début du mois d'avril dans le nord du pays, ont été libérés. Les 3 religieux sont arrivés hier à Yaoundé, la capitale, souriants et apparemment en bonne santé. Leur enlèvement n'avait jamais été revendiqué, mais une fois encore, Boko Haram a été montré du doigt.
En République centrafricaine, calme relatif à Bangui après les violences qui ont secoué la capitale. Hier, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, s'est rendue au chevet des blessés de l'attaque de l'église Notre-Dame de Fatima. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Le calme est revenu à Bangui et les activités reprennent progressivement. Toutes les barricades ont été levées. Depuis hier, on note une reprise timide des véhicules de transport en commun. Dans une déclaration ce dimanche, le premier ministre de la transition, André Zapaïké, a appelé les travailleurs à la reprise et les forces de défense et de sécurité à regagner leur camp. C'est dans ce contexte que la présidente Catherine Samba Panza s'est rendue au chevet des blessés du drame de l'église Notre-Dame de Fatima, prise en charge par Médecins sans frontières. En réponse au mécontentement de la communauté musulmane de PK5, la chef de l'État a indiqué que le désarmement ne se fera pas dans le désordre.
La volonté de désarmer est certaine parce que c'est un point d'achoppement sur la sécurité. Maintenant, on ne désarmera pas dans le désordre. Il faut que ça soit organisé. Organisé avec la MISCA, organisé avec Sangari, organisé avec les forces de défense intérieure pour voir mettre en place un plan et un programme de désarmement qui en même temps protège ces populations. Il n'est pas question d'arriver, de boucler le troisième et le cinquième, de désarmer, de les laisser comme ça à la merci des gens qui viendraient les attaquer.
Notons que les 3 jours de deuil décrétés à la mémoire des victimes de l'attaque du mercredi 28 mai contre l'église Notre-Dame de Fatima démarrent ce lundi sur l'ensemble du territoire national.
Dans l'actualité encore, le Soudan a nié hier avoir annoncé la libération prochaine de Mariam Yahya Ibrahim, la chrétienne soudanaise condamnée à la peine de mort par pendaison pour avoir refusé d'abjurer sa foi chrétienne au profit de l'islam. Khartoum affirme que les déclarations attribuées la veille à un responsable du ministère des Affaires étrangères avaient été sorties de leur contexte. Un porte-parole a indiqué que sa libération dépendait du jugement de la cour d'appel. Des leaders mondiaux et ONG internationales ont demandé au gouvernement soudanais d'annuler la condamnation à mort de la jeune femme. Les États-Unis ont appelé le régime de Khartoum à respecter les libertés religieuses de ses citoyens.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce la libération de 50 détenus de la crise post-électorale de 2010-2011, un geste présenté par le ministre de la Justice comme un signe d'apaisement en direction des partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais la société civile a des réserves.
On s'entend sur le fait que c'est la justice qui doit primer pour les libérer. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui étaient là juste par hasard, qui n'ont jamais fait de la politique, qui sont en prison. Simplement par une erreur de patronyme, certains parce qu'ils étaient allés dire bonjour à leurs frères, et ainsi de suite. Donc pour nous, tous ceux qu'on ne peut pas inculper doivent sortir sur le plan de la justice purement. Maintenant, ceux qui ont agi dans la crise et qui sont reconnus comme tels se font inculper et puis bon, la justice suit son cours.
Que fait la société civile pour faciliter ce processus?
Nous avons fait toutes les démarches possibles. La première démarche a été le constat sur le terrain, l'augmentation des individus, de ce qu'on leur reprochait et tout, et des dossiers. La Convention de la société civile ivoirienne, vous avez toutes les organisations de droits de l'homme comme la LIDO, le MIDH, APDH, qui ont documenté tout ce qui était pratiquement relatif à ces prisonniers qu'on dit pro Gbagbo. La deuxième étape a été d'aller vers les autorités et leur dire par écrit, il faut que les gens soient inculpés parce qu'il y a des gens qui ont vu le juge d'urgence et ils ont été juste emprisonnés.
Le docteur Kwame Christophe, coordonnateur national de la CSCI en Côte d'Ivoire.
Le Gabon se prépare déjà pour l'élection présidentielle de 2016. L'opposition s'active en vue de trouver un consensus sur le choix d'un candidat unique pour affronter le parti au pouvoir. Dans le camp de la majorité, le chef de l'État a cherché à rallier ses troupes ce week-end à Libreville. C'est ce que nous dit Dieudonné Minlama, président de l'Observatoire national de la démocratie au Gabon.
Samedi, il y a eu un meeting politique qui a regroupé le président de la République et tous les leaders de la majorité présidentielle avec pour objectif de réveiller les troupes et d'aller sur le terrain pour éventuellement s'organiser et défendre la politique du président en vue de l'élection présidentielle de 2016. Les deux forces s'organisent très activement. Je pense que nous allons à une confrontation entre une opposition qui va tourner autour des anciens leaders de l'Union nationale et ceux qui sont sortis du camp du PDG et de l'autre côté, le PDG et sa majorité présidentielle. Donc nous allons avoir un duel en 2016 qui est en train de se préciser de jour en jour.
Au Malawi, c'est ce lundi qu'aura lieu la cérémonie d'investiture du président Peter Mutharika au stade Kamuzu de Blantyre, deux jours après sa prestation de serment. Darina Naidu nous en dit davantage.
Le nouveau chef d'État a lancé un appel à l'unité de tous les fils et filles du Malawi pour reconstruire le pays.
It's obvious that we're facing very serious problems in this country.
Il est évident que nous sommes confrontés à de très graves problèmes dans ce pays. Personne ne peut les résoudre tout seul. J'invite donc tout un chacun, le gouvernement, l'opposition, le pouvoir judiciaire, le secteur privé, la presse, les membres du clergé, les syndicats. Tous ensemble, collectivement, nous devons nous efforcer de reconstruire ce pays, a déclaré Peter Mutharika. Mais certains de ses partisans disent que sa crédibilité en tant que leader dépendra d'une chose, la réalisation de ses promesses de campagne. Les attentes du peuple malawite sont énormes et la lune de miel risque d'être de courte durée pour le frère du président Bingu wa Mutharika, mort il y a 2 ans. Peter Mutharika a battu la présidente sortante Joyce Banda dans un scrutin contesté. Madame Banda voulait de nouvelles élections, mais sa demande a été rejetée par la haute cour du Malawi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'unique prisonnier de guerre américain en Afghanistan se trouve maintenant dans un hôpital militaire en Allemagne. Le sergent Bo Bugdal a été libéré samedi par les talibans en échange de 5 extrémistes détenus à Guantanamo. Chérubin Dorsil.
Les médecins de Bugdal doivent évaluer son état de santé et lui prodiguer les soins nécessaires. Ils disent qu'ils vont suivre ce qu'ils appellent un rythme confortable en vue de son rétablissement. Âgé aujourd'hui de 28 ans, le sergent a été capturé par les talibans le 30 juin 2009, environ 2 mois après son arrivée en Afghanistan. Le secrétaire américain à la défense, Chuck Hagel, a défendu hier dimanche l'accord qui a facilité la libération du soldat américain en échange de 5 insurgés afghans. L'entente est intervenue sans l'avis requis de 30 jours au Congrès, conformément à la loi des États-Unis. Le patron du Pentagone dit que les autorités craignaient une détérioration rapide de la santé du sergent Bo Bugdal. Les 5 prisonniers afghans seront remis au Qatar, qui s'engage à les maintenir en surveillance pendant 1 an. Un membre influent du Congrès, le républicain Mike Rogers, a qualifié cet échange de prisonniers de changement fondamental dans la politique américaine de ne pas négocier avec les terroristes.
Le Premier ministre d'Israël a appelé les dirigeants du monde à ne reconnaître aucun gouvernement palestinien d'union nationale qui inclurait les militants du Hamas. Jean-Roger Bion.
L'appel du leader israélien est intervenu hier dimanche. Je demande à tous les responsables de la communauté internationale de ne pas se précipiter de reconnaître un gouvernement palestinien dont le Hamas fait partie ou un gouvernement qui s'appuie sur le Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste appelant à la destruction de l'État d'Israël et la communauté internationale ne devrait pas le cautionner. Cela ne va pas renforcer la paix, mais plutôt le terrorisme, a déclaré Benjamin Netanyahou. Le nouveau gouvernement palestinien devrait être formé ce lundi sur la base d'un accord de coopération politique conclu en avril entre les dirigeants de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le nouveau gouvernement va reconnaître Israël et renoncer à la violence. Washington a dit vouloir attendre la formation du gouvernement palestinien avant de se prononcer. Tout comme Israël, les États-Unis considèrent le Hamas comme une organisation terroriste.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci Anne et à tout à l'heure. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Le Monde aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Cap sur la République démocratique du Congo. Vous le savez, les rebelles Hutu-Rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda ont commencé à déposer les armes au nord Kivu. Les FDLR exigent que la communauté internationale facilite une solution politique entre les rebelles et Kigali. Les réactions n'ont pas tardé à Goma, où nous retrouvons notre correspondant Primo Pascal Rodaigua.
C'est depuis le 30 mai dernier que le premier convoi d'environ 100 combattants avec leurs dépendants se sont rendus à la SADC et aux autorités congolaises dans la localité de Buleusa au nord du territoire du Walikale. Quelques armes lourdes et légères ont été également rendues. Le porte-parole des FDLR, la Forge Fils Bazeye, joint au téléphone, confirme leur volonté de contribuer au processus de paix en cours dans la région des Grands Lacs.
Chez nous, au Rwanda, nous avons un problème politique. Tout le monde constate que ce problème ne peut pas se résoudre militairement, il doit se résoudre politiquement. La barre est maintenant dans le cadre de la communauté internationale qui doit œuvrer pour que les FDLR puissent rentrer chez eux en toute dignité.
Le gouvernement congolais salue cette initiative. Il a décidé de relocaliser les FDLR vers l'ouest de la RDC, c'est-à-dire dans la province de l'Équateur, pour les éloigner davantage du Rwanda. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu.
Pour le cas du Nord Kivu, le gouvernement a choisi Walikale Centre comme le site de regroupement. Et dans les 15 jours, on commence la relocalisation de ces gens vers la province de l'Équateur.
Le président de la coordination de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin Mwiti, n'est pas d'accord avec cette démarche.
On ne peut cantonner que des personnes qui sont considérées comme des réfugiés. Et le réfugié devrait être traité comme tel. Un réfugié, c'est quelqu'un qui n'a pas d'armes. Il peut avoir un positionnement politique. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui se dit FDLR, qu'un gouvernement puisse le cantonner, le nourrir, le mettre quelque part pour qu'il soit servi.
Quelle assurance le gouvernement congolais donne-t-il par rapport à ces processus? Julien Paluku ne rassure rien.
C'est vrai ou c'est faux? Ce n'est pas une question qu'on peut me poser parce que l'annonce ne constitue pas un engagement du gouvernement. C'est un engagement des FDLR eux-mêmes.
L'analyste politique Onesphore Sematumba dit que quelques questions restent sans réponse à ces sujets.
Est-ce que le Rwanda est impliqué et engagé dans ces processus? Si la RDC et le Rwanda ne sont pas suffisamment dans le coup, dites-nous pourquoi. Parce que ne pas répondre à ça, c'est aller droit dans la logique des pointillés avec à l'arrivée des FDLR qui s'installent durablement à l'Équateur, c'est-à-dire en République démocratique du Congo.
Primo Pascal Rudahigwa, Goma, pour La Voix de l'Amérique.
L'ex-ministre de la Défense du Mali réclame une commission d'enquête parlementaire sur les événements survenus à Kidal. Soumeilou Boubey Maïga se dit prêt à répondre à toutes les questions devant une telle commission. Déclaration faite lors du forum des femmes de son parti politique Asma au palais des congrès de Bamako. Le compte-rendu de Kassim Traoré.
Une semaine après sa démission, l'ancien ministre malien de la Défense essaie de justifier son départ. Soumaïlou Boubé Maïga.
Vous savez, dans la tragédie qui nous est arrivée, on entend beaucoup de choses. Mais les leçons qu'il faut retenir, c'est que quand nous sommes en responsabilité publique, si on a l'obsession d'être bien vu tout le temps par tous, souvent on oublie ce qu'on a dit, on oublie ce qu'on a fait. Ça, c'est pas moi, genre.
Le président du parti Assouman, non moins ancien ministre de la Défense, demande à ses députés de saisir l'Assemblée nationale dès ce lundi matin.
Dès le lundi, nos députés vont saisir leurs collègues de tous les groupes parlementaires, le président de l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale, qui incarne le peuple, mette en place une commission d'enquête parlementaire.
Soumaïlou Boubé Maïga s'est dit prêt à aller rencontrer cette commission parlementaire avec ses preuves.
Bien sûr, moi je serai prêt à aller témoigner devant la commission, à mettre à sa disposition toutes les communications, tous les SMS qui ont été échangés. Parce que nous savons par nos services, nous savons aussi par d'autres services qui ont été échangés entre les gens et ceux qui sont sur le terrain. En ce moment, ils verront bien qui a échangé avec qui a dit quoi, qui a été le dernier à leur parler, qui a continué à leur parler.
L'Assemblée et son président restent dans la majorité, mais ils ne veulent plus se tromper de combat.
Nous ne sommes pas dans le camp du président d'aujourd'hui parce qu'on a su qu'il gagnait. Mais nous sommes unis sur la vérité, sur l'endurance. C'est ça qui nous est. Imaginez une seule minute qu'il peut tirer un gain politique personnel de la tragédie qui frappe tout le pays.
Soumaïlou Boubé Maïga demande aux Maliens de travailler pour l'unité et la paix au Mali.
Notre problème, c'est pas d'essayer de sauver notre tête. Parce que les tâches dans lesquelles chacun est pour le pays, ça dépasse nos individus. Moi, je ne dis pas que le pays nous appartient. Parce qu'il y en a qui croient que le pays leur appartient. Nous, nous appartenons à notre pays. Nous sommes au service de notre pays. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne laisserons personne penser même une minute qu'il peut tirer un gain politique personnel en se servant des épaules ou des têtes de chacun comme escalier.
L'Assemblée nationale du Mali va-t-elle donner une suite favorable à la demande de l'Assemblée en mettant en place une commission d'enquête parlementaire? Une affaire à suivre. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Congo-Brazzaville, le débat sur la Constitution fait rage. Des ministres et dignitaires dans certaines provinces demandent au président Denis Sassou Nguesso de changer la Constitution afin de rester au pouvoir, ce que n'admet pas l'opposition de Brazzaville, Nguela Nguessou.
Le débat sur la modification de la Constitution s'est ravivé ces dernières semaines. Dans la rue, deux camps s'expriment différemment. Ceux qui sont contre...
On ne change pas la Constitution, il n'y a pas à toucher. Ne fût-ce que la tête de I, on ne touche pas.
Et ceux qui estiment que la Constitution n'est pas une Bible.
Et si les élus, quelque part, sont limités dans leur action parce que la Constitution de 2002 ne l'autorise pas, moi je crois que c'est un motif pour pouvoir regarder dans quelle mesure cette Constitution peut être retouchée ou changée tout simplement.
Toujours silencieux, le président Denis Sassou Nguesso a initié une série de rencontres citoyennes où les sages lui demandent de changer de Constitution pour briguer un troisième mandat. Pour Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir, le dernier mot reviendra au peuple.
Les multiples déclarations tendant à faire croire à l'opinion que le Parti congolais du travail met en œuvre la décision déjà prise du président de la République de changer la Constitution. Ni le Parti congolais du travail, ni la majorité présidentielle n'ont pris une résolution à ce sujet. Nous sommes désormais un espace de démocratie, chacun libre de donner son opinion. Et la dernière parole revient au souverain primaire.
À l'opposition, on crie au coup d'État constitutionnel. Clément Mierassa.
Le président Sassou a une mouture de constitution depuis 2013. Pourquoi il ne la sort pas? C'est parce que nous étions déjà dans le combat. Et aujourd'hui, le folklore que nous vivons avec les sages, les jeunes à travers ça, ce ne sont que des manipulations, une instrumentalisation organisée par le parti au pouvoir. Et le président Sassou part en 2016, il lui reste 810 jours.
Une plateforme a même été créée à Brazzaville pour empêcher le changement de la constitution. Gilda Mounsara est son porte-parole.
2016, c'est pour nous un tournant où nous devons donner la preuve que notre pays a atteint la maturité démocratique et politique. Il va falloir que le président actuel qui a prêté serment de respecter et de défendre la Constitution quitte le pouvoir puisqu'il a exercé deux mandats. Il ne peut pas en exercer plus.
Pour de nombreux observateurs, ce débat qui ne fait que commencer va bientôt soulever les vagues. Nguela Nguessou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Le le Burkina Faso, autre pays où une éventuelle modification de la constitution fait également polémique. À l'appel de l'opposition, des protestataires ont manifesté samedi leur refus du référendum en vue de cette réforme constitutionnelle qui permettrait au chef de l'État, Blaise Compaoré, de se représenter à la présidentielle de 2015. À Ouagadougou, Zoumana Wanogo.
Visiblement, le lieu choisi, à savoir le grand stade de football de la capitale burkinabé, a eu une influence sur les faits et gestes lors de ce grand meeting de l'opposition. Arba Diallo, le doyen des opposants, s'est fait arbitre du match entre les pros et les anti-référendums.
Ce que je vous demande, c'est de vous tenir debout et nous allons dire à Blaise Compaoré, carton rouge.
Je donne un carton rouge à un joueur qui veut faire de l'anti-jeu. Le match doit continuer. Il va sortir du terrain pour que le jeu puisse continuer. L'avenir de ce pays n'est pas lié à une seule personne. Il faut que chacun puisse y apporter une contribution. On est 16 millions de Burkinabés. Personne n'est indispensable.
Dans le même ton sportif, le président du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, insiste, lui, sur l'esprit sportif qui doit guider à ne pas aller vers la modification de l'article 37 de la Constitution. Suivant Roch Marc-Christian Kabore, le président du MPP.
Si bien sur le droit que sur la réalité, des faits, ils n'ont aucune raison de faire un référendum. Le constituant, lorsqu'en 2000, il reprenait les décisions de limiter le mandat, c'est sur la base d'une discussion que le collège Lassage a proposé une panoplie de mesures pour nous sortir de la crise. Le constituant a validé, limité le mandat à 5 ans renouvelables une fois. Donc, par conséquent, pour nous, il s'agit du respect de la parole donnée, il s'agit d'une question d'éthique politique et de morale. Donc, pour nous, il n'y a vraiment pas lieu de s'agiter trop sur la question du référendum.
Pour parvenir à ces objectifs anti-référendum, l'opposition a créé des comités de supporters de ses idées, appelés Comité contre le référendum, CCR. Maître Benewende Sankara explique.
C'est une idée que toute l'opposition, je dis bien toute l'opposition dans son ensemble, a trouvée de façon consensuelle pour qu'en alliance avec la société civile, nous puissions nous organiser à la base, dans les villages, dans toutes les communautés, de façon à ce que les mots d'ordre qui seront répercutés contre toute idée, je dis bien contre toute idée de référendum ou d'opérationnalisation du Sénat soit purement et simplement combattu par notre peuple.
Le Burkina Faso sans Blaise Compaoré à sa tête, ce reste le chaos comme on en voit dans les pays à long règne. Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, se veut rassurant.
C'est le lieu pour l'opposition politique de féliciter chaleureusement le secrétaire d'État américain John Kerry et à travers lui le président Barack Obama pour la position très ferme qu'ils ont exprimée à Kinshasa sur le respect de la limitation des mandats présidentiels. Nous invitons tous les amis du Burkina Faso à user de leur influence pour éviter que le président Blaise Compaoré n'engage le pays dans la voie du suicide. Et je voudrais ici, de cette tribune, rassurer tous les pays frères du Burkina Faso, tous les partenaires et amis du Burkina Faso, que contrairement à une propagande savamment distillée ici et là, un changement démocratique au Burkina Faso n'entraînera ni chaos, ni recul, ni instabilité, ni guerre civile.
Zoumana Wanogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
Place maintenant à la tranche sportive. Bonjour Jean-Roger Billon.
Bonjour Jacques.
Coupe d'Afrique des Nations de football 2015, le premier tour des éliminatoires a donné son verdict. On connaît les 14 qualifiés du second tour.
Oui, des équipes bien déterminées comme la Namibie, la Mauritanie et le Burundi ne seront pas au rendez-vous du deuxième tour, comptant pour les phases éliminatoires de la CAN 2015, dont je vous donne le programme. Le Lesotho sera opposé au Kenya, l'Ouganda croise le fer avec la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville accueille le Rwanda, le Botswana aura en face de lui la Guinée-Bissau, la Sierra Leone rencontre les Seychelles, le Bénin ira à la conquête du Malawi et la Tanzanie va essayer de défier le Mozambique. Ces matchs du deuxième tour aller sont prévus entre le 18 et le 20 juillet 2014. Les rencontres retour se dérouleront du 1er au 3 août. Les 7 qualifiés participeront donc à la phase des poules décisive pour la qualification pour les phases finales de la CAN 2015, qui, vous le savez, se déroulera au Maroc.
Mondial 2014, l'Italie ira au Brésil sans Rossi.
L'attaquant de la Fiorentina, Giuseppe Rossi, n'a pas finalement été retenu dans la liste des 23 joueurs de l'Italie pour le Mondial 2014, dévoilé hier dimanche par Cesare Prandelli. Rossi, absent 4 mois pour blessure, n'a pas retrouvé un état de forme suffisant et laisse sa place dans le groupe à Lorenzo Insigne. Au lendemain de la défaite aux Pays-Bas, 1-0, le sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a livré lui aussi sa liste définitive des 23 joueurs qui vont disputer la Coupe du Monde. Blessés, Jerry Akaminko, Jeffrey Schoop et David Akam ont été écartés, alors que les frères Ayou seront tous deux bien présents au Brésil.
Et pourquoi ne pas parler du Mondial 2022? Le Qatar dément avec véhémence toute irrégularité.
Le Qatar a nié très fort toute irrégularité dans l'attribution du Mondial 2022 de football en réponse aux accusations de la presse sur le versement de pots de vin par un ex-responsable qatari afin de s'assurer des soutiens à la candidature de son pays. Il a encore affirmé que le Qatar avait obtenu le Mondial 2022 parce que c'était la meilleure offre et qu'il était temps pour le Moyen-Orient d'organiser sa première Coupe du Monde. Le Sunday Times, le journal anglais par lequel le scandale a été révélé, indique être en possession de milliers de courriels et d'autres documents attestant de présumés versements d'argent effectués par le Qatariote Mohamed Bin Hammam, alors membre du comité exécutif de la FIFA, et radié à vie en 2012 pour corruption.
Merci Jean-Roger.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau de Sporama sur la Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil, non-stop, sur votre portable, c'est possible. Allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats, photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
L'heure maintenant de la rubrique musicale, Roger Muntou aux commandes, comme d'habitude. Salut Roger.
Bonjour Jacques. José Fajardo joue pendant plusieurs années des claves et des maracas dans l'orchestre de son père, Alberto Fajardo. Il apprend la flûte avec Fernando Sanchez dans sa ville natale avant de poursuivre des études musicales plus poussées à La Havane. On l'écoute ce matin dans Por la Maqueta.
Oye, dime, ¿sabes cómo estoy?
¿Cómo estás?
Estoy por la maceta.
¿Cómo?
Sí, por la maceta. Oye,
dime,
¿tú sabes cómo soy?
¿Cómo eres?
Yo soy muy cariñoso.
¿Cómo?
Sí, muy cariñoso. En la vida yo tengo muchas cosas muy buenas. No se las doy a cualquiera porque no se las merecen.
José Fajardo, comme vous le dites si bien Roger, a poursuivi ses études musicales plus poussées à La Havane, mais en même temps, il partage sa passion avec une activité professionnelle, policier.
Oui Jacques, sa situation financière ne le permettait pas de vivre confortablement avec seulement le peu qu'il gagnait en tant que musicien. En 1959, après une tournée au Japon, Fajardo s'installe aux États-Unis avec une nouvelle formation. Il propage le dernier rythme à la mode dans l'île, la pachanga.
José Fajardo dans Por la Maqueta. Merci Roger.
De rien Jacques, un clin d'œil à notre fidèle auditrice Itoua à Brazzaville.
Rendez-vous quotidien avec Roger Muntou dans RM Show à 20h TU.
We'll be right back.
Et voilà, belle ambiance pour clore le monde aujourd'hui. Merci à Anne Albertson qui était à la réalisation. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette demi-heure. C'était Jacques Aristide à Washington. Merci de votre fidélité. Très bonne journée et très bonne semaine sur la VOA. Take care.